comme dans un livre. Marie-Christine Loubry. Les liaisons dangereuses, de Pierre Chauderlot de Laclos. Lettre 58. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Par où ai-je donc mérité, madame, et le reproche que vous me faites, et la colère que vous me témoignez, l'attachement le plus vif et pourtant le plus respectueux, la soumission la plus entière à vos moindres volontés? Voilà en deux mots l'histoire de mes sentiments et de ma conduite. Accablé par les peines d'un amour malheureux, je n'avais d'autre consolation que celle de vous voir. Vous m'avez ordonné de m'en priver. J'ai obéi sans me permettre un murmure. Pour prix de ce sacrifice, vous m'avez permis de vous écrire, et aujourd'hui, vous voulez m'ôter cet unique plaisir. Me le laisserai-je ravir sans essayer de le défendre? Non, sans doute. Et comment ne serait-il pas cher à mon cœur? C'est le seul qui me reste, et je le tiens de vous. Mes lettres, dites-vous, sont trop fréquentes. Songez donc, je vous prie, que depuis 10 jours que dure mon exil, je n'ai passé aucun moment sans m'occuper de vous, et que cependant vous n'avez reçu que 2 lettres de moi. Je ne vous y parle que de mon amour, et que puis-je dire que ce que je pense? Tout ce que j'ai pu faire a été d'en affaiblir l'expression. Et vous pouvez m'en croire, je ne vous en ai laissé voir que ce qu'il m'a été impossible d'en cacher. Vous me menacez enfin de ne plus me répondre. Ainsi, l'homme qui vous préfère à tout et qui vous respecte encore plus qu'il ne vous aime, non contente de le traiter avec rigueur, vous voulez y joindre le mépris. Et pourquoi ces menaces et ce courroux? Et qu'en avez-vous besoin? N'êtes-vous pas sûr d'être obéi, même dans vos ordres injustes? M'est-il donc impossible de contrarier aucun de vos désirs, et ne l'ai-je pas déjà prouvé? Mais abuserez-vous de cet empire que vous avez sur moi? Après m'avoir rendu malheureux, après être devenu injuste, vous sera-t-il donc bien facile de jouir de cette tranquillité que vous assurez vous êtes si nécessaire? Ne vous direz-vous jamais, il m'a laissé maîtresse de son sort, et j'ai fait son malheur? Il implorait mes secours, et je l'ai regardé sans pitié. Savez-vous jusqu'où peut aller mon désespoir? Non. Pour calculer mes maux, il faudrait savoir à quel point je vous aime, et vous ne connaissez pas mon cœur. À quoi me sacrifiez-vous? À des craintes chimériques. Et qui vous les inspire? Un homme qui vous adore. Un homme sur qui vous ne cesserez jamais d'avoir un empire absolu. Que craignez-vous? Que pouvez-vous craindre d'un sentiment que vous serez toujours maîtresse de diriger à votre gré? Mais votre imagination se crée des monstres, et l'effroi qu'il vous cause, vous l'attribuez à l'amour. Un peu de confiance, et ces fantômes disparaîtront. Un sage a dit que pour dissiper ses craintes, il suffisait presque toujours d'en approfondir la cause. On croit que c'est Rousseau dans les Mille, mais la citation n'est pas exacte, et l'application qu'en fait Valmont est bien fausse. Et puis, Madame de Tourvel avait-elle lu les Mille? C'est surtout en amour que cette vérité trouve son application. Aimez et vos craintes s'évanouiront. À la place des objets qui vous effraient, vous trouverez un sentiment délicieux, un amant tendre et soumis. Et tous vos jours, marqués par le bonheur, ne vous laisseront d'autres regrets que d'en avoir perdu quelques-uns dans l'indifférence. Moi-même, depuis que, revenu de mes erreurs, je n'existe plus que pour l'amour, je regrette un temps que je croyais avoir passé dans les plaisirs. Et je sens que c'est à vous seul qu'il appartient de me rendre heureux. Mais, je vous en supplie, que le plaisir que je trouve à vous écrire ne soit plus troublé par la crainte de vous déplaire. Je ne veux pas vous désobéir, mais je suis à vos genoux. J'y réclame le bonheur que vous voulez me ravir, le seul que vous m'avez laissé. Je vous crie, écoutez mes prières et voyez mes larmes. Ah, madame, me refuserez-vous ? Lettre 59. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Apprenez-moi si vous savez ce que signifie ce radotage de Danceny. Qu'est-il donc arrivé et qu'est-ce qu'il a perdu? Sa belle s'est peut-être fâchée de son respect éternel. Il faut être juste, on se fâcherait à moins. Que lui dirai-je ce soir au rendez-vous qu'il me demande et que je lui ai donné à tout hasard? Assurément, je ne perdrai pas mon temps à écouter ses doléances si cela ne doit nous mener à rien. Les complaintes amoureuses ne sont bonnes à entendre qu'en récitatif obligé ou en grandes ariettes. Instruisez-moi donc de ce qui est et de ce que je dois faire. Ou bien je déserte, pour éviter l'ennui que je prévois. Pourrais-je causer avec vous ce matin? Si vous êtes occupé, au moins écrivez-moi un mot et donnez-moi les réclames de mon rôle. Où étiez-vous donc hier ? Je ne parviens plus à vous voir. En vérité, ce n'était pas la peine de me retenir à Paris au mois de septembre. Décidez-vous pourtant, car je viens de recevoir une invitation fort pressante de la comtesse de B pour aller la voir à la campagne. Et, comme elle me le demande assez plaisamment, son mari a le plus beau bois du monde qu'il conserve soigneusement pour les plaisirs de ses amis. Or, vous savez que j'ai bien quelques droits sur ce bois-là, et j'irai le revoir si je ne vous suis pas utile. Adieu. Songez que Danceny sera chez moi sur les 4 heures. Lettre 60. Le chevalier Danceny au vicomte de Valmont. Incluse dans la précédente. Ah, monsieur, je suis désespérée, j'ai tout perdu. Je n'ose confier au papier le secret de mes peines, mais j'ai besoin de le répandre dans le sein d'un fidèle ami et sûr. À quelle heure pourrais-je vous voir et aller chercher auprès de vous des consolations et des conseils ? J'étais si heureux le jour où je vous ouvris mon âme. À présent, quelle différence ! Tout est changé pour moi. Ce que je souffre pour mon compte n'est encore que la moindre partie de mes tourments. Mon inquiétude sur un objet bien plus cher, voilà ce que je ne puis supporter. Plus heureux que moi, vous pourrez l'avoir, et j'attends de votre amitié que vous ne me refuserez pas cette démarche. Mais il faut que je vous parle, que je vous instruise. Vous me plaindrez, vous me secourrez. Je n'ai d'espoir qu'en vous. Vous êtes sensible, vous connaissez l'amour, et vous êtes le seul à qui je puisse me confier. Ne me refusez pas votre secours. Adieu, monsieur. Le seul soulagement que j'éprouve dans ma douleur est de songer qu'il me reste un ami tel que vous. Faites-moi savoir, je vous prie, à quelle heure je pourrai vous trouver. Si ce n'est pas ce matin, je désirerais que ce fût de bonne heure dans l'après-midi. Lettre 61. Cécile Volanges à Sophie Carnet. Ma chère Sophie, plainte à Cécile, ta pauvre Cécile. Elle est bien malheureuse. Maman sait tout. Je ne conçois pas comment elle a pu se douter de quelque chose. Et pourtant, elle a tout découvert. Hier au soir, maman me parut bien avoir un peu d'humeur. Mais je n'y fis pas grande attention. Et même en attendant que sa partie fût finie, je causais très gaiement avec Madame de Merteuil, qui avait soupé ici, et nous parlâmes beaucoup de Danceny. Je ne crois pas pourtant qu'on ait pu nous entendre. Elle s'en alla, et je me retirai dans mon appartement. Je me déshabillai quand maman entra et fit sortir ma femme de chambre. Elle me demanda la clé de mon secrétaire. Le ton dont elle me fit cette demande me causa un tremblement si fort que je pouvais à peine me soutenir. Je faisais semblant de ne la pas trouver, mais enfin il fallut obéir. Le premier tiroir qu'elle ouvrit fut justement celui où étaient les lettres du chevalier Danceny. J'étais si troublée que quand elle me demanda ce que c'était, je ne sus lui répondre autre chose, sinon que ce n'était rien. Mais quand je la vis commencer à lire celle qui se présentait la première, je n'eus que le temps de gagner un fauteuil et je me trouvai mal au point que je perdis connaissance. Aussitôt que je revins à moi, ma mère, qui avait appelé ma femme de chambre, se retira en me disant de me coucher. Elle a emporté toutes les lettres de Danceny. Je frémis toutes les fois que je songe qu'il me faudra reparaître devant elle. Je n'ai fait que pleurer toute la nuit. Je t'écris au point du jour, dans l'espoir que Joséphine viendra. Si je peux lui parler seule, je la prierai de remettre chez Madame de Merteuil un petit billet que je vais lui écrire. Sinon, je le mettrai dans ta lettre, et tu voudras bien l'envoyer, comme de toi. Ce n'est que d'elle que je puis recevoir quelque consolation. Au moins, nous parlerons de lui, car je n'espère plus le voir. Je suis bien malheureuse. Elle aura peut-être la bonté de se charger d'une lettre pour Danceny. Je n'ose pas me confier à Joséphine pour cet objet, et encore moins à ma femme de chambre, car c'est peut-être elle qui aura dit à ma mère que j'avais des lettres dans mon secrétaire. Je ne t'écrirai pas plus longuement, parce que je veux avoir le temps d'écrire à Madame de Merteuil et aussi à Danceny, pour avoir ma lettre toute prête, si elle veut bien s'en charger. Après cela, je me recoucherai pour qu'on me trouve au lit quand on entrera dans ma chambre. Je dirai que je suis malade, pour me dispenser de passer chez maman. Je ne mentirai pas beaucoup. Sûrement, je souffre plus que si j'avais la fièvre. Les yeux me brûlent à force d'avoir pleuré, et j'ai un poids sur l'estomac qui m'empêche de respirer. Quand je songe que je ne verrai plus Danceny, je voudrais être morte. Adieu, ma chère Sophie. Je ne peux t'en dire davantage. Les larmes me suffoquent. Nota, on a supprimé la lettre de Cécile Volanges à la marquise parce qu'elle ne contenait que les mêmes faits de la lettre précédente, et avec moins de détails. Celle au chevalier Danceny ne s'est point retrouvée. On en verra la raison dans la lettre 63 de Madame de Merteuil au vicomte. Lettre 62. Madame de Volanges au chevalier Danceny. Après avoir abusé, monsieur, de la confiance d'une mère et de l'innocence d'un enfant, vous ne serez pas surpris, sans doute, de ne plus être reçu dans une maison où vous n'avez répondu aux preuves de l'amitié la plus sincère que par l'oubli de tous les procédés. Je préfère de vous prier de ne plus venir chez moi, à donner des ordres à ma porte qui nous compromettraient tous également par les remarques que les valets ne manqueraient pas de faire. J'ai le droit d'espérer que vous ne me forcerez pas de recourir à ce moyen. Je vous préviens aussi que si vous faites à l'avenir la moindre tentative pour entretenir ma fille dans l'égarement où vous l'avez plongée, une retraite austère et éternelle la soustraira à vos poursuites. C'est à vous de voir, monsieur, si vous craindrez aussi peu de causer son infortune que vous avez peu craint de tenter son déshonneur. Quant à moi, mon choix est fait, et je l'en ai instruite. Vous trouverez 6 juin le paquet de vos lettres. Je compte que vous me renverrez en échange toutes celles de ma fille, et que vous vous prêterez à ne laisser aucune trace d'un événement dont nous ne pourrions garder le souvenir, moi sans indignation, elle sans honte et vous sans remords. J'ai l'honneur d'être.
Tonight. troubles on his mind. He's looking right for me.
Lettre 63. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Vraiment, oui, je vous expliquerai le billet de Danceny. L'événement qui le lui a fait écrire est mon ouvrage, et c'est, je crois, mon chef-d'œuvre. Je n'ai pas perdu mon temps depuis votre dernière lettre, et j'ai dit comme l'architecte athénien, ce qu'il a dit, je le ferai. Il lui faut donc des obstacles à ce beau héros de roman, et il s'endort dans la félicité. Qu'il s'en rapporte à moi, je lui donnerai de la besogne. Et je me trompe, ou son sommeil ne sera plus tranquille. Il fallait bien lui apprendre le prix du temps, et je me flatte qu'à présent, il regrette celui qu'il a perdu. Il fallait, dites-vous aussi, qu'il eût besoin de plus de mystère. Eh bien, ce besoin-là ne lui manquera plus. J'ai cela de bon, moi, c'est qu'il ne faut que me faire apercevoir de mes fautes. Je ne prends point de repos, que je n'ai tout réparé. Apprenez donc ce que j'ai fait. En rentrant chez moi, avant-hier matin, je lus votre lettre. Je la trouvais lumineuse. Persuadée que vous aviez très bien indiqué la cause du mal, je ne m'occupais plus qu'à trouver le moyen de le guérir. Je commençais pourtant par me coucher, car l'infatigable chevalier ne m'avait pas laissé dormir un moment, et je croyais avoir sommeil. Mais point du tout. Tout entière à Danceny, le désir de le tirer de son indolence, ou de l'en punir, ne me permit pas de fermer l'œil. Et ce ne fut qu'après avoir bien concerté mon plan que je pus trouver 2 heures de repos. J'allai le soir même chez Madame de Volanges, et, suivant mon projet, je lui fis confidence que je me croyais sûre qu'il existait entre sa fille et Danceny une liaison dangereuse. Cette femme, si clairvoyante contre vous, était aveuglée au point qu'elle me répondit d'abord qu'à coup sûr je me trompais, que sa fille était un enfant, etc. Je ne pouvais pas lui dire tout ce que j'en savais. Mais je citais des regards, des propos, dont ma vertu et mon amitié s'alarmaient. Je parlais enfin presque aussi bien qu'aurait pu faire une dévote, et, pour frapper le coup décisif, j'allais jusqu'à dire que je croyais avoir vu donner et recevoir une lettre. Cela me rappelle, ajoutai-je, qu'un jour elle ouvrit devant moi un tiroir de son secrétaire dans lequel je vis beaucoup de papiers, que sans doute elle conserve. Lui connaissez-vous quelques correspondances fréquentes ? Ici, la figure de Madame de Volanges changea, et je vis quelques larmes rouler dans ses yeux. « Je vous remercie, ma digne amie, » me dit-elle en me serrant la main. « Je m'en éclaircirai. » Après cette conversation, trop courte pour être suspecte, je me rapprochai de la jeune personne. Je la quittai bientôt après pour demander à la mère de ne pas me compromettre vis-à-vis de sa fille, ce qu'elle me promit d'autant plus volontiers que je lui fis observer combien il serait heureux que cet enfant prît assez de confiance en moi pour m'ouvrir son cœur et me mettre à portée de lui donner mes sages conseils. Ce qui m'assure qu'elle tiendra sa promesse, c'est que je ne doute pas qu'elle ne veuille se faire honneur de sa pénétration auprès de sa fille. Je me trouvais par là autorisée à garder mon ton d'amitié avec la petite, sans paraître fausse aux yeux de Madame de Volanges, ce que je voulais éviter. J'y gagnais encore d'être, par la suite, aussi longtemps et aussi secrètement que je voudrais, avec la jeune personne, sans que la mère en prît jamais d'ombrage. J'en profitai dès le soir même. Et après ma partie finie, je chambrai la petite dans un coin et la mis sur le chapitre de Danceny, sur lequel elle ne tarit jamais. Je m'amusai à lui monter la tête sur le plaisir qu'elle aurait à le voir le lendemain. Une sorte de folie que je lui ai fait dire. Il fallait bien lui rendre en espérance ce que je lui ôtais en réalité. Et puis, tout cela devait lui rendre le coup plus sensible. Et je suis persuadée que plus elle aura souffert, plus elle sera pressée de s'en dédommager à la première occasion. Il est bon d'ailleurs d'accoutumer au grand mouvement quelqu'un qu'on destine aux grandes aventures. Après tout, ne peut-elle pas payer de quelques larmes le plaisir d'avoir son Danceny ? Elle en raffole. Eh bien, je lui promets qu'elle l'aura, et plutôt même qu'elle ne l'aurait eu sans cet orage. C'est un mauvais rêve dont le réveil sera délicieux. Et à tout prendre, il me semble qu'elle me doit de la reconnaissance. Au fait, quand j'y aurais mis un peu de malice, il faut bien s'amuser. Les sots sont ici-bas pour nos menus plaisirs. Grosset, le méchant comédie. Je me retirai enfin, fort contente de moi. Où Danceny, me disais-je, animé par les obstacles, va redoubler d'amour, et alors je le servirai de tout mon pouvoir. Ou, si ce n'est qu'un sot, comme je suis tenté quelquefois de le croire, il sera désespéré et se tiendra pour battu. Or, dans ce cas, au moins me serais-je vengé de lui autant qu'il était en moi. Chemin faisant, j'aurais augmenté pour moi l'estime de la mère, l'amitié de la fille et la confiance de toutes deux. Quant à Gercourt, premier objet de mes soins, je serais bien malheureuse ou bien maladroite si maîtresse de l'esprit de sa femme, comme je le suis et va l'être plus encore, je ne trouvais par mille moyens d'en faire ce que je veux qu'il soit. Je me couchais dans ces douze idées. Aussi je dormis et me réveillai fort tard. À mon réveil, je trouvai deux billets, un de la mère et un de la fille. Et je ne pus m'empêcher de rire, en trouvant dans tous deux littéralement cette même phrase. « C'est de vous seul que j'attends quelque consolation. » N'est-il pas plaisant, en effet, de consonner pour et contre, et d'être le seul agent de deux intérêts directement contraires? Me voilà comme la divinité, recevant les vœux opposés des aveugles mortels et ne changeant rien à mes décrets immuables. J'ai quitté pourtant ce rôle auguste pour prendre celui de l'ange consolateur, et j'ai été, suivant le précepte, visiter mes amis dans leur affliction. J'ai commencé par la mère. Je l'ai trouvée d'une tristesse qui déjà vous venge en partie des contrariétés qu'elle vous a fait éprouver de la part de votre belle prude. Tout a réussi à merveille. Ma seule inquiétude était que Madame de Volanges ne profitât de ce moment pour gagner la confiance de sa fille, ce qui eût été bien facile en n'employant avec elle que le langage de la douceur et de l'amitié, et en donnant au conseil de la raison l'air et le ton de la tendresse indulgente. Par bonheur, elle s'est armée de sévérité. Elle s'est enfin si mal conduite que je n'ai eu qu'à applaudir. Il est vrai qu'elle a pensé rompre tous nos projets par le parti qu'elle avait pris de faire entrer sa fille au couvent. Mais j'ai paru ce coup, et je l'ai engagée à en faire seulement la menace, dans le cas où Danceny continuerait ses poursuites, afin de les forcer tous deux à une circonspection que je crois nécessaire pour le succès. Ensuite, j'ai été chez la fille. Vous ne sauriez croire combien la douleur l'embellit. Pour peu qu'elle prenne de coquetterie, je vous garantis qu'elle pleurera souvent. Pour cette fois, elle pleurait sans malice. Frappée de ce nouvel agrément que je ne lui connaissais pas et que j'étais bien aise d'observer, je ne lui donnais d'abord que de ces consolations gauches qui augmentent plus les peines qu'elles ne les soulagent. Et par ce moyen, je l'amenais au point d'être véritablement suffoquée. Elle ne pleurait plus et je craignais un moment les convulsions. Je lui conseillais de se coucher, ce qu'elle accepta. Je lui servis de femme de chambre, elle n'avait point fait de toilette, et bientôt ses cheveux épars tombèrent sur ses épaules et sur sa gorge entièrement découverte. Je l'embrassai, elle se laissa aller dans mes bras, et ses larmes recommencèrent à couler sans effort. Dieu, qu'elle était belle! Ah, si Madeleine était ainsi, elle dut être bien plus dangereuse, pénitente que pécheresse. Quand la belle désolée fut au lit, je me mis à la consoler de bonne foi. Je la rassurai d'abord sur la crainte du couvent. Je fis naître en elle l'espoir de voir Danceny en secret. Et m'asseyant sur le lit, s'il était là, lui dis-je. Puis, brodant sur ce thème, je la conduisis de distraction en distraction à ne plus se souvenir du tout qu'elle était affligée. Nous nous serions séparées parfaitement contentes l'une et l'autre si elle n'avait voulu me charger d'une lettre pour Danceny, ce que j'ai constamment refusé. En voici les raisons que vous approuverez sans doute. D'abord, celle que c'était me compromettre vis-à-vis de Danceny. Et si c'était la seule dont je pus me servir avec la petite, il y en avait beaucoup d'autres de vous à moi. Ne serait-ce pas risquer le fruit de mes travaux que de donner sitôt à nos jeunes gens un moyen si facile d'adoucir leur peine? Et puis, je ne serais pas fâchée de les obliger à mêler quelques domestiques dans cette aventure. Car enfin, si elle se conduit à bien, comme je l'espère, il faudra qu'elle se cache immédiatement après le mariage. Et il y a peu de moyens plus sûrs pour la répandre, ou, si par miracle il ne parlait pas, nous parlerions, nous, et il serait plus commode de mettre l'indiscrétion sur leur compte. Il faudra donc que vous donniez aujourd'hui cette idée à Danceny. Et comme je ne suis pas sûre de la femme de chambre de la petite Volanges, dont elle-même paraît se défier, indiquez-lui la mienne, ma fidèle Victoire. J'aurai soin que la démarche réussisse. Cette idée me plaît d'autant plus que la confidence ne sera utile qu'à nous, et point à eux. car je ne suis pas à la fin de mon récit. Pendant que je me défendais de me charger de la lettre de la petite, je craignais à tout moment qu'elle ne me proposât de la mettre à la petite poste, ce que je n'aurais guère pu refuser. Heureusement, soit trouble, soit ignorante de sa part, ou encore qu'elle tint moins à la lettre qu'à la réponse, qu'elle n'aurait pas pu avoir avec ce moyen, elle ne m'en a point parlé. Mais pour éviter que cette idée ne lui vînt, ou au moins qu'elle ne pût s'en servir, j'ai pris mon parti sur le champ. Et en rentrant chez la mère, je l'ai décidé à éloigner sa fille pour quelque temps, à la mener à la campagne. Et où ? Le cœur ne vous bat pas de joie ? Chez votre tante, chez la vieille Rosemonde. Elle doit l'en prévenir aujourd'hui. Ainsi, vous voilà autorisé à aller retrouver votre dévote, qui n'aura plus à vous objecter le scandale du tête-à-tête. Et grâce à mes soins, Madame de Volanges réparera elle-même le tort qu'elle vous a fait. Mais écoutez-moi, et ne vous occupez pas si vivement de vos affaires, que vous perdiez celle-ci de vue. Songez qu'elle m'intéresse. Je veux que vous vous rendiez le correspondant et le conseil des deux jeunes gens. Apprenez donc ce voyage à Danceny et offrez-lui vos services. Ne trouvez de difficulté qu'à faire parvenir entre les mains de la belle vos lettres de créance. Et levez cet obstacle sur le champ en lui indiquant la voie de ma femme de chambre. Il n'y a point de doute qu'il n'accepte. Et vous aurez pour prix de vos peines la confidence d'un cœur neuf qui est toujours intéressante. La pauvre petite. Comme elle rougira en vous remettant sa première lettre. Au vrai, ce rôle de confident, contre lequel il s'est établi des préjugés, me paraît un très joli délassement quand on est occupé ailleurs. Et c'est le cas où vous serez. C'est de vos soins que va dépendre le dénouement de cette intrigue. Jugez du moment où il faudra réunir les acteurs. La campagne offre 1000 moyens. Et Danceny, à coup sûr, sera prête à s'y rendre à votre premier signal. Une nuit, un déguisement, une fenêtre, que sais-je, moi. Mais enfin, si la petite fille en revient telle qu'elle y aura été, je m'en prendrai à vous. Si vous jugez qu'elle ait besoin de quelque encouragement de ma part, mandez-le-moi. Je crois lui avoir donné une assez bonne leçon sur le danger de garder des lettres pour oser lui écrire à présent. Et je suis toujours dans le dessein d'en faire mon élève. Je crois avoir oublié de vous dire que ses soupçons au sujet de sa correspondance trahie s'étaient portés d'abord sur sa femme de chambre et que je les ai détournés sur le confesseur. C'est faire d'une pierre deux coups. Adieu, vicomte. Voilà bien longtemps que je suis à vous écrire. Et mon dîner en a été retardé. Mais l'amour-propre et l'amitié dictaient ma lettre, et tous deux sont bavards. Au reste, elle sera chez vous à 3 heures, et c'est tout ce qu'il vous faut. Plaignez-vous de moi, à présent, si vous l'osez, et allez revoir, si vous en êtes tenté, le bois du comte de B. Vous dites qu'il le garde pour le plaisir de ses amis. Cet homme est donc l'ami de tout le monde. Mais adieu, j'ai faim. »